Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici les titres. Biélorussie, le Sénat et le ministre des Affaires étrangères condamnent une nouvelle fois le régime de Loukachenko. Yémen, ouverture du procès de 5 ravisseurs des touristes tchèques. Et puis football, 2 clubs turcs seraient intéressés par l'international tchèque Jaroslav Plašil. Une pure dictature impossible à soutenir. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a qualifié le régime du président Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Le chef de la diplomatie tchèque a tenu ses propos ce jeudi à Prague, au Sénat. La chambre haute du Parlement tchèque a condamné la répression brutale exercée par les autorités biélorusses et la police contre les opposants au régime suite aux élections présidentielles qui se sont tenues en décembre dernier. Plusieurs centaines d'opposants, vous le savez, ont été arrêtés lors des manifestations qui ont suivi l'annonce des résultats de ce scrutin. Il n'est pas possible au XXIe siècle de tolérer une pure dictature au milieu de l'Europe. C'est ce qu'a déclaré Karel Schwarzenberg, qui a également répété qu'il allait réclamer dans le cadre de l'Union européenne une position dure et sans compromis à l'égard des représentants du régime biélorusse. Un tribunal yéménite a commencé cette semaine à juger 5 hommes qui sont accusés de l'enlèvement de 4 touristes tchèques à l'ouest de la capitale Sanaa le 17 janvier dernier. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle Sabah. Les 4 touristes ont été libérés sains et saufs le 17 janvier, un peu plus tard, après un affrontement entre les forces de sécurité yéménites et les 5 ravisseurs armés. 3 d'entre eux ont été arrêtés, tandis que les 2 autres sont toujours en fuite. Au cours de l'affrontement, 2 soldats, et 1 enfant ont été blessés. Les 3 accusés ont avoué au jury avoir enlevé les 4 touristes, c'est ce qu'a rapporté l'agence Sabah. Le tribunal a décidé que la prochaine audience aura lieu le 1er février prochain. Ex-skieuse de fond, la tchèque Kateřina Neumannová reconnaît que le comité d'organisation des championnats du monde de ski nordique de 2009 à Liberec, dont elle était présidente, fait face à une dette de 112 millions de couronnes, environ 4,5 millions d'euros. Elle propose que les grandes entreprises créancières effacent une partie de cette dette pour résoudre la situation. L'État tchèque avait déjà investi plus de 2 milliards de couronnes dans l'organisation de ces mondiaux 2009 et l'actuel gouvernement refuse catégoriquement d'y allouer des moyens supplémentaires. On continue avec du sport et du football cette fois-ci avec l'international tchèque Jaroslav Plašil, arrivé à Bordeaux en 2009 après le sacre girondin en Ligue 1. L'international tchèque s'est immédiatement imposé au sein du club français, mais lié au club aquitain jusqu'en 2013, le tchèque pourrait ne pas faire long feu chez les Girondins. Le quotidien français Le Parisien annonce en effet que les Turcs du Fenerbahçe et de Galatasaray suivraient l'ancien monégasque de très près, même si aucune offre n'a encore été faite pour le moment. Un mot sur la météo avec la grisaille qui reste de mise, un temps très nuageux qui devrait continuer de régner sur la majeure partie du territoire ce vendredi, jour de la fête des Otiliers en République tchèque. De nouvelles chutes de neige sont attendues un peu partout dans le pays et les températures restent stables, toujours entre moins 3 et 1 degré pour les maximales en journée. C'était le bulletin pour plus d'infos, www.radio.cz et dans un instant la suite du programme en français avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Manifestation contre l'augmentation des limites de bruit. Projet de mémorial et d'exposition à la mémoire des victimes qui ont travaillé pendant la guerre dans une usine souterraine nazie en Bohême du Nord. Inauguration d'une plaque commémorative sur la maison natale de l'écrivain Max Brod. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé par la section française de Radio Prague et présenté par Václav Richter. Merci de rester avec nous. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant le siège du ministère de la Santé au centre de Prague pour protester contre une augmentation des limites de bruit envisagée par le gouvernement. L'État pourrait ainsi économiser des sommes importantes investies dans la construction des murs anti-bruit au bord des autoroutes. Magdalena Hrozinkova.
Eh Bien que peu nombreux, les représentants des associations qui militent contre les nuisances sonores ont protesté haut et fort contre le projet du ministre des Transports, Vid Bharta, d'augmenter les limites de bruit de 60 à 65 décibels dans la journée et de 50 à 55, voire 60 décibels la nuit. On écoute Miroslav Grunt de l'initiative contre l'augmentation des limites de bruit.
10 décibels, c'est 10 fois plus de bruit. C'est comme si, dans une période précise, 5000 camions passaient près de votre immeuble et tout d'un coup, ils étaient 50 000. Alors, pourquoi est-ce que le ministère parle de 10 décibels et non pas de 10 fois plus bruit auquel nous serons exposés ?
Le projet est soutenu à la surprise générale par le ministère de la Santé, qui explique cette mesure par une harmonisation de la législation tchèque avec celle de l'Union européenne. L'Organisation mondiale de la santé indique pourtant que le niveau moyen et prolongé du bruit nocturne ne doit pas dépasser 40 décibels, l'équivalent du bruit émis dans une rue tranquille d'un quartier résidentiel, le niveau supérieur à 55 décibels étant nocif pour la santé. Construire plus et moins cher, telle est tout de même la priorité du gouvernement tchèque. D'après le porte-parole du ministère de la Santé, l'impossibilité de dépasser les limites hygiéniques actuelles devient critique. Le projet du gouvernement mobilise notamment les communes de Jesenice et de Dolní Břežany, situées à proximité du nouveau tronçon du périphérique de Prague et où le bruit nocturne atteint 55 décibels. Ils ont lancé une pétition en faveur de la construction des murs anti-bruit. Parmi les manifestants, il y avait également les représentants d'une autre commune de la région pragoise menacée par le bruit, Panenské Břežany. Au total, 30 000 habitants des villages environnants protestent contre la transformation du petit aéroport local de Vodochody en un aéroport international fréquenté par plus de 3 millions de voyageurs par an.
Alors que nous célébrons en ce 27 janvier Yoashoa, la journée des victimes de l'Holocauste, Anna Kubishta s'est penchée sur un projet de mémorial d'exposition à la mémoire des victimes qui travaillèrent pendant la guerre dans une usine souterraine nazie en Bohême du Nord.
C'est une ancienne mine d'extraction de calcaire dont l'histoire remonte à bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale, au XIXe siècle. Située près de Letomiažice en Bohême du Nord, elle a abrité pendant la guerre une usine nazie secrète. Avec le début de la guerre et les bombardements, les nazis cherchent à cacher leur production mécanique. La mine s'avère être un lieu idéal et peu à peu, les nazis transfèrent leur production sous terre pour échapper aux bombardements alliés. À l'automne 1944, les salles de production commencent à fonctionner. Aujourd'hui, l'état de l'usine souterraine se dégrade à vue d'œil et une initiative a vu le jour afin de soutenir un projet de protection du site, comme le précise Kamil Soukup, directeur de l'Office du tourisme de Letomiažice.
Nous nous activons dans l'intention de construire un mémorial en souvenir de cette époque tragique où fonctionnait une usine secrète. En même temps, nous voulons rappeler l'histoire entière de cette mine. Nous allons chercher à concrétiser ce projet.
Le projet, comme souvent, se heurte pour l'heure à des besoins de financement, raison pour laquelle le dossier est encore à l'étude. Kamil Soukup.
C'est une question financière. Nous cherchons des possibilités réalistes, car rien n'est gratuit. Nous espérons pouvoir construire une exposition directement à l'intérieur de la mine, mais celle-ci se trouve dans un tel état de désolation que ça va être très difficile. La deuxième possibilité, c'est que l'exposition soit installée à l'entrée de cet espace, ou une combinaison des deux. Tout est possible, mais c'est l'étude en cours qui dira ce qu'il en est.
Dans l'usine mécanique souterraine, des ouvriers sont employés à l'ouvrage, notamment des Français et des Italiens au début, mais surtout des prisonniers détachés du camp de concentration de Flossenbürg près de Letomiažice. On y fabrique notamment des pièces détachées pour les moteurs de véhicules et de chars. Des milliers de personnes se tueront littéralement à l'ouvrage, comme le rappelle Kamil Soukup.
Ce sont des chiffres très tristes au vu du peu de mois pendant lesquels la production a duré.
Au début, ce sont des prisonniers de Térézine qui ont préparé la production. Ils se levaient très tôt le matin et revenaient le soir. C'était très dur et le taux de mortalité était très important. La direction de l'usine a donc décidé de créer le camp de concentration de Flossenbürg, non loin de là, dans d'anciennes casernes. Pendant ces quelques mois, quelques 18 000 prisonniers sont passés par là, parmi lesquels 4 500 personnes n'ont pas survécu.
À l'heure actuelle, l'ancienne usine souterraine est interdite au public, même si malgré le danger, des visiteurs se rendent parfois sur place. L'ancienne mine, baptisée Richard, n'est pas le seul site tchèque à avoir été réutilisé à la fin de la guerre, aux fins militaires du régime nazi.
C'est ce mercredi qu'a été inaugurée à Prague une plaque commémorative sur la maison natale de l'écrivain Max Brod. La capitale tchèque a ainsi rendu hommage à l'un de ses fils ayant joué un rôle important dans sa vie culturelle de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, Max Brod, écrivain tchèque de langue allemande, né en 1884, est connu surtout en tant qu'ami et éditeur de Franz Kafka. Pour la postérité, cette amitié célèbre a éclipsé la propre œuvre de Max Brod, homme aux multiples talents, romancier, journaliste et compositeur, qui mérite de ne pas être oublié. La plaque commémorative a été inaugurée sur la maison de Max Brod grâce à l'initiative de l'association Franz Kafka et de la Chambre de commerce tchéco-israélienne. Parmi les personnalités de la vie culturelle et diplomatique ayant assisté à la cérémonie, il y avait l'historien de littérature Josef Čermák, cofondateur de l'association Franz Kafka, traducteur et éditeur de Kafka et auteur du livre Franz Kafka et Prague. Il a évoqué les activités de Max Brod dans la vie culturelle et sociale de Prague au tournant du siècle sous la Première République tchécoslovaque, tout en soulignant que Brod avait été le médiateur le plus important entre les nationalités et les ethnies qui coexistaient dans la ville à cette époque-là.
Dans les milieux culturels judéo-allemands de Prague, il était sans doute à son époque le plus grand et le plus actif connaisseur du monde tchèque et de sa culture. Il présentait cette culture avec dévouement et succès à l'étranger. C'est lui qui a fait connaître au monde l'œuvre de Leoš Janáček, qui depuis est de plus en plus appréciée. Il a écrit une monographie de Leoš Janáček, il a traduit des livrets de ses opéras et a publié sa correspondance avec lui. Il a aussi lancé sur le plan international le brave soldat Švejk de Jaroslav Hašek et a contribué à la renommée mondiale de cet écrivain.
C'est à partir de 1925 que Max Brod commence à publier les œuvres de Franz Kafka, entre autres les romans L'Amérique, Le Château et Le Procès, considérés aujourd'hui comme les piliers de la littérature mondiale du XXe siècle. Josef Čermák constate.
Patrně s největším ohlasem se setkali jeho zásluhy o dílo Franz.
Ce sont probablement ses efforts pour lancer et faire connaître l'œuvre de Franz Kafka qui ont suscité le plus grand retentissement. Il était lié avec Kafka d'une amitié désintéressée, il était convaincu du génie de Kafka et osait le dire déjà à l'époque où pratiquement aucune de ses œuvres n'était publiée. Et surtout, grâce à sa désobéissance clairvoyante, le noyau de l'œuvre de Kafka a été conservé.
Zůstalo jádro Kafkova díla vůbec zachováno.
En effet, malgré la promesse donnée à son ami prématurément disparu, Max Brod n'a pas brûlé les manuscrits des œuvres de Franz Kafka, mais a consacré une grande partie de sa vie à les défendre et à les éditer. C'est à lui donc que Franz Kafka doit sa gloire posthume. Cette activité d'édition a finalement éclipsé la propre œuvre de Brod, qui mérite pourtant l'attention des lecteurs. Il est l'auteur de toute une série d'essais philosophiques, de romans, de contes, de pièces de théâtre et de mémoires. C'est le roman Le chemin de Tycho Brahe, premier tome de la trilogie intitulée Le combat pour la vérité, qui est considéré comme son chef-d'œuvre. Max Brod a passé la seconde moitié de sa vie en Israël, où il s'était réfugié en 1939 face aux dangers nazis. Il y a poursuivi ses activités culturelles théâtrales et y est mort en 1968, âgé de 84 ans. C'est son nom que l'association Franz Kafka de Prague a donné à un concours pour jeunes essayistes auquel ont participé depuis 17 ans 2000 jeunes écrivains. Nous évoquerons la vie et l'œuvre de Max Brod plus en détail ce samedi dans la rubrique Rencontres littéraires. Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé par la section française de Radio Prague. Le château Renaissance de Radim, qui a soufflé l'an dernier ses 400 bougies, est la destination de cette nouvelle balade touristique de Radio Prague. Il y a 6 ans, le château, qui tombait en ruine, a été racheté par Antonín Dotlačil, ancien entrepreneur en bâtiment et agent immobilier, qui a su lui insuffler une nouvelle vie. Passionné par le patrimoine de la Renaissance, Antonín Dotlačil a passé plusieurs mois en France pour étudier ce style. De nombreux objets d'art apportés de l'Hexagone ornent aujourd'hui le château de Radim, qui propose 3 circuits de visite, à l'exception des pièces sous le toit habitées par la famille du nouveau propriétaire. Le château peut se visiter à n'importe quelle saison. Jirka Gisiblova s'est rendue sur place pour vous le présenter.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le très joli château de Radim, à une 40 kilomètres à l'est de Prague en direction de la ville de Kolín, est relativement peu connu des touristes. Ce qui n'est guère étonnant car il n'a accueilli ses premiers visiteurs qu'en juin 2008. Il nous frappe à première vue par son aspect extérieur. Le château était bâti dans le style de la Renaissance saxonne, un style peu habituel en Bohême, raconte Petr Barta, guide au château.
To byl takový výrazně protestantský stavební styl. Stavitelé zámku Zárubové z Ustýřan byli.
C'est un style de construction typique pour la religion protestante. Le bâtisseur du château Záruba de Ustýřany est un protestant. Par son œuvre, il a manifesté ostensiblement son appartenance à cette religion. Le style de la Renaissance saxonne est le plus répandu en Bohême du Nord et c'est le château de Benešov nad Ploučnicí, son représentant le plus marquant. Dans d'autres régions de Bohême et de Moravie, ce genre de monument est plutôt rare, raison pour laquelle nous sommes d'autant plus fiers d'en posséder un. Autre rareté, le château de Radim a échappé par chance aux incendies. Le palais principal occupe cet emplacement sans grand changement depuis déjà 400
ans.
Radim est un exemple d'architecture renaissance pure. Tout dans ce château est de style renaissance authentique. Ainsi, les splendides fresques d'origine qui ornent la salle principale ont été sauvegardées également grâce à l'impératrice Marie-Thérèse, qui s'est arrêtée au château pendant la guerre austro-prussienne et qui a fait voiler tous les éléments en bois dans le cadre de la nouvelle réforme anti-incendie. Le château est aussi l'un des rares qui n'ait jamais été rebâti, ce qui fait son exclusivité. Antonín Dotlačil dit que quand il l'a découvert, ça a été le coup de cœur immédiat, un rêve qui s'est réalisé. Plus qu'une question d'argent, son acquisition était liée à des rapports patrimoniaux compliqués. En 1990, Radim a été restitué aux héritiers de l'ancien propriétaire Jaroslav Bukovski, médecin personnel du président Masaryk. Après de difficiles négociations qui ont entraîné en longueur, Antonín Dotlačil a racheté en 2005 ce château tombant en ruine à un prix qui reste secret. La seule chose qu'il a révélée est que peu après la signature du contrat, il a reçu de la part d'une société française une offre de vente du château pour 15 millions de couronnes. Antonín Dotlačil a dû dépenser une somme d'argent identique à celle versée à l'achat du château et les travaux de rénovation pour le mobilier qui faisait complètement défaut. Tous les objets de décoration et d'aménagement des intérieurs sont des originaux, souligne Petr Barta.
Aucun meuble n'est une copie. Tous les meubles sont des exemples de style renaissance tardif. Quelques-uns sont de style baroque précoce, éventuellement, s'ils ne datent pas des 16e et 17e siècles, ont été créés au 19e siècle dans le style néo-renaissance, ce qui est le cas d'un grand buffet vaisselier richement sculpté. Dans tout le château, vous ne trouverez pas un seul objet qui serait une copie.
La première mention écrite du site porte la date de 1320. Elle documente l'existence d'une citadelle appartenant au baron Guillaume de Radim. Les armoiries de familles aristocratiques tchèques qui se sont succédées au château ornent le hall d'entrée, parmi eux les Wallenstein, les Steinberg, les Kinski. Enfin, les Liechtenstein qui sont restés le plus longtemps depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1918 et qui ont vendu le domaine à la famille Bukowski. En tournant ses produits en 1950, le château a été nationalisé et le comité national y a installé son siège jusqu'en 1989. Le château propose trois circuits de visite. Le premier nous conduit dans les salles Renaissance de la noblesse. Chaque chambre à coucher est aménagée avec des lits uniques fabriqués autour de l'année 1630, ainsi que d'objets rares permettant de se faire une idée de l'aménagement d'époque des salles de bain. Ainsi, il y a une baignoire de cuivre en forme de gondole fabriquée au XVIIe siècle en Angleterre. La reine Anne d'Autriche a été la première à avoir importé ce type de baignoire sur le continent européen, raconte Antonín Dotlačil.
Dans notre château, nous montrons à la fois les salles de bain telles qu'elles étaient à l'époque Renaissance, en montrant en même temps comment fonctionnait le système d'hygiène au château. Dans chacune des chambres à coucher, nous exposons une baignoire, un lavabo.
Son amour pour la France, Antonín Dotlačil l'illustre aussi par quelques portraits de souverains français comme le roi Henri IV, son fils Louis XIII, avec sa femme Anne d'Autriche, qui est représentée avec le petit Louis XIV vêtu comme une fille. Autre rareté du château, un globe astrologique de style baroque précoce fabriqué en France. Les représentations en couleur des différentes constellations sont complété de signes du zodiaque. Une rare armoirie s'ajoute au nombre d'objets rares qui sont à voir au château de Radim. On écoute Petr Barta.
L'un des objets les plus intéressants est cette armoirie à étages, style Nuremberg, fabriquée en Bohême. C'est un objet dont nous sommes très fiers et qui a été classé au patrimoine culturel. L'armoirie date du début du XVIIe siècle et est l'une des rares qui se soit sauvegardée. Les sculptures d'une remarquable finesse représentent des fruits, des fleurs et d'autres motifs encore. Ce meuble élégant en noyer massif est un ensemble en trois corps à retrait, un socle, deux importants coffres et des tiroirs en bas. Les différentes parties ne sont pas reliées et peuvent être démontées. Jusqu'à présent, les serrures des portes sont parfaitement fonctionnelles.
Le troisième circuit de visite ouvert en 2010 nous plonge dans les entrailles du château, la plus attrayante pour les visiteurs est la cuisine noire sous-sol. L'élément de base est le feu ouvert, la cheminée était destinée au fumage de la viande. Dans cette cuisine, les visiteurs peuvent goûter le pain cuit au four ou encore une spécialité de Radim, les beignets sucrés préparés avec de la pâte à pain. Le circuit des visites nous conduit encore au bureau du châtelain rénové qui se trouve au rez-de-chaussée et qui était dans le passé le centre des comptes du domaine, comme l'observe Petr Barta.
Tous les documents sur les dépenses et les recettes du domaine y étaient concentrés. Toutes sortes d'affaires comme les actes de mariage et déménagement d'un domaine à l'autre y étaient réglées, ainsi que la plupart des litiges.
La plus belle pièce du château de Radim est la salle principale au plancher en bois peint. Elle est ornée d'un magnifique lustre de la propriété de Liechtenstein acquis par Antonín Dotlačil à une vente aux enchères à Amsterdam. Des cérémonies de mariage sont célébrées dans cette salle et on y donne aussi des concerts. Et les projets pour l'avenir, Antonín Dotlačil et sa femme Vladimira voudraient bientôt ouvrir une pension avec un restaurant pour leurs hôtes. Ils projettent aussi de nettoyer l'étang situé près du château, de régénérer le jardin qui l'entoure et d'organiser une partie du jardin en parc à la française. Si une fois vous venez en train, devez changer à Collines, qui se trouve à 17 km de Radim, n'hésitez pas à y faire une étape. Collines possède une magnifique cathédrale gothique. Sinon, à un quart d'heure de voiture de Collines, se trouve la ville de Kojim, l'une des plus anciennes cités slaves, que nous vous ferons visiter dans un de nos prochains guides. En attendant, merci de votre attention et à très bientôt sur nos ondes.
L'émission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1 y 30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.